7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI du lundi au vendredi pour se parler chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, cette question, le jeu vidéo est-il moral ? Incarner un gangster, un sniper, un douanier dans une dictature ou tout simplement être un sale type pour gagner ? Les jeux sont aussi accusés de sexisme, voire plus rarement de propagande politique. Alors les développeurs de jeux peuvent-ils imaginer n'importe quelle histoire au nom de la liberté de création ? Nous attendons bien sûr vos points de vue, les voisins, surtout si vous êtes un fan de jeux vidéo ou si vos enfants y jouent. Appelez-nous dès maintenant pour dialoguer avec nos invités. 33 1 84 22 71 71. Dans le studio de 7 milliards de voisins, Pia Jacquemart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une femme journaliste spécialisée dans les jeux vidéo depuis 10 ans.
Oui, tout à fait.
Il y a donc des femmes dans l'univers des jeux vidéo.
Ah oui, il y en a. On n'est pas majoritaire, mais on est présente.
Ambroise Garel également, bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez sous pseudo Louis-Ferdinand Sebom, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Canard PC, c'est oui. Le magazine indépendant des jeux vidéo. Tous les journalistes de votre journal s'expriment sous pseudo ?
Tous, oui, c'est une coutume qui remonte à la presse de jeux vidéo des années 90 en fait.
Et pourquoi ?
C'est une coutume, alors ça c'est très compliqué, mais c'est une coutume qui date des premiers magazines de jeux vidéo, Joypad, Joystick en particulier, donc Canard PC est un descendant, et la coutume est toujours restée. Maintenant d'autres font différemment, mais pour nous ça reste une pratique.
Et pourquoi pseudo Louis-Ferdinand Sebom ?
Alors ça, c'est très compliqué. La plupart des pseudos dans les magazines de jeux vidéo ont tendance à beaucoup jouer sur tout ce qui est un peu culture geek ou des choses comme ça un peu légères.
Oui,
et nous, on a voulu
cherché,
prendre le contre-pied et avoir des pseudos qui sont ou historiques ou littéraires.
Donc vous
en même
aimez
temps,
la littérature pessimiste de Céline, Louis-Ferdinand ?
Je suis littéraire de formation et pessimiste dans l'âme, donc oui.
D'accord. Et Sebom, parce que les joueurs de jeux vidéo ont des boutons ? Non,
voilà,
vous n'en
exactement.
Avez pas. Ah, c'est vrai, c'était ça ? Ah oui, c'est drôle. On sera également en ligne tout à l'heure avec Oscar Gilbert, PDG du studio de jeux vidéo Dontnod, qui vient de sortir un jeu vidéo avec une héroïne, voire même deux héroïnes. Nous verrons si le jeu peut envisager un succès commercial. Je vous rappelle que parler de jeux vidéo, pour ceux qui diraient « Oh, le sujet ne m'intéresse guère », c'est quand même parler de la première industrie culturelle au monde, devant la musique, devant le cinéma. 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013.
J'ai besoin de ton aide. On va se farcir des tas de types armés.
Tu partant.
C'est quand même des gens qui sont capables de s'enfermer pendant 3 jours chez eux pour tuer virtuellement.
On va s'éclater. It's time for me to kill. My genocide crusade begins here.
C'est vrai que les jeux vidéo, ça rend violent.
Call of Duty m'ordonne de tuer.
Si vous avez chez vous des jeux vidéo violents, comme 80% d'une génération située entre 13 et 30 ans, vous risquez de perdre la boule. Quand elle apporte de la violence pour nos chers petites têtes blondes, mais bien sûr qu'elle fait partie des jeux vidéo, tout comme le reste de notre culture, films, séries, télévision, sport et j'en passe. Mais le support vidéoludique apporte la même chose que le reste, émotion, rire, larmes, bref, l'essence de l'humanité, le pire et le meilleur. Oui, les jeux vidéo me rendent violent, mais seulement une partie de mon corps réagit, le clic droit de ma souris.
Ne jamais laisser ressurgir la bête.
Alors ? Qui a envie de jouer ?
7 milliards de voisins, ça poste en rafale aujourd'hui, mais alors catégorie initiée. Hein. Aujourd'hui, un message d'Andy à Port-au-Prince en Haïti. Toute ma vie, j'ai joué aux jeux vidéo et je peux vous garantir que le jeu vidéo n'est pas immoral. Ce sont juste des produits de divertissement. Un autre internaute, Marduk, on ne sait pas d'où il poste. Les jeux vidéo ne sont pas à blâmer. Ils permettent de développer la concentration, de tisser des liens par la rivalité, notamment dans les versus fighting, c'est-à-dire des jeux de baston à plusieurs joueurs les uns contre les autres. Toutefois, il faut avoir une certaine lucidité et comprendre que les jeux, c'est de la fiction. Arkham, qui est à Moroni. Les jeux vidéo m'ont permis de me détendre avec mes potes, mais aussi et surtout d'apprendre l'anglais. Oui, il y a beaucoup d'anglais, on l'a entendu. Toutefois, je préfère les jeux d'aventure ou de foot pour augmenter ma connaissance sur ce sport. Ou encore Omar, qui est à Dakar, au Sénégal. Pour moi, les jeux vidéo sont un bon moyen de dissiper ma colère. Quand je joue à Gunship Battle ou à Army Sniper, quand je tue les ennemis, je parviens à éloigner ma colère. envers les gens. Allez, appelez-nous maintenant. 33 1 84 22 71 71. Et vous, Pierre Jacquemart et Louis-Ferdinand Sebaum, Ambroise Garel, quelle est votre histoire personnelle avec les jeux vidéo? Je vais peut-être poser la question à la fille qui est journaliste de jeux vidéo.
Bah, elle est assez classique. Elle a démarré avec un jeu violent pour l'époque. C'est assez drôle. J'étais un goûter d'anniversaire pour petite fille. J'étais en primaire.
Ah oui.
Et le petit frère de l'anniversaire, enfin de la jeune fille dont on fêtait l'anniversaire, avait ce jeu vidéo sur NES qui s'appelle Duck Hunt. Donc c'était un jeu vraiment basique avec des petits canards qui apparaissaient à l'écran et on avait un pistolet, il fallait viser les canards. Et quand on perdait, il y avait ce chien agaçant qui apparaissait et qui rigolait. Et toutes les petites filles en robe de princesse, on scotchait sur la télévision et on n'a plus jamais lâché. Je suis rentrée à la maison, j'ai réclamé une console de jeu et je n'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, j'ai deux enfants, je joue le soir avec mon époux.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 31 ans.
Louis-Ferdinand Sebaum, donc Ambroise Garel dans la vraie vie.
Eh ben, c'est un peu la même histoire. Je crois que l'histoire est toujours la même. La seule différence, c'est que je suis devenu joueur PC aussi par accident. Parce que donc quand j'étais en primaire, j'avais un ami dont le père était informaticien. Et un jour, je suis allé chez lui et il jouait à un jeu qui s'appelait Xenon 2. Qui était un jeu donc de tir avec un petit vaisseau sur son PC. Et d'ailleurs la version PC n'était pas la meilleure, mais je savais pas à l'époque. Et donc je suis tombé amoureux du jeu et j'ai mis la pression à mes parents jusqu'à ce qu'ils m'achètent un PC le Noël suivant.
Voilà. Alors dans le monde du jeu, il y a deux catégories d'individus, hein. Il y a les casual et les hardcore gamers. Vous êtes définitivement des hardcore gamers. Il faut l'être quand on est quand on a comme métier critique de jeux vidéo.
Oui, non. Alors on fait la différenciation entre le métier de critique de jeux vidéo pendant la période, on va dire, de l'âge d'or après Internet, quand on lisait tous les magazines qu'on achetait en presse, c'était des testeurs de jeux vidéo. Donc des gens qui étaient les seuls à avoir accès aux jeux vidéo. À ce moment-là, il était plus important d'être un hardcore gamer et d'avoir une excellente culture du jeu vidéo que d'avoir fait des études littéraires comme
Louis Ferdinand
et s'intéresser au journalisme. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a énormément de références de jeux vidéo. Il y a une histoire qui est de plus en plus importante. Donc tout le temps qu'on passe à être un spécialiste des jeux vidéo, c'est autant de temps pendant lequel, malheureusement, on va peut-être avoir du mal à vulgariser justement pour le grand public. Je dirais qu'il faut faire son choix. Il faut être hardcore sur certains types de jeux, peut-être, pourquoi pas.
Se spécialiser à l'intérieur des jeux vidéo.
Pour pouvoir ensuite parler de ce qu'on connaît le mieux. Ou alors, en vieillissant, peut-être qu'on devient tous un peu casual aussi.
Et puis au-delà du fait de vulgariser ou pas, et là c'est vrai que ne pas être complètement la tête dans le guidon des jeux vidéo, c'est bien, ça permet de vulgariser plus facilement. Ça donne aussi une perspective différente, et ça on en parlera sans doute, mais le jeu vidéo est en train de se démocratiser. C'était vraiment une pratique de niche dans les années 80, jusqu'à la mi-90, jusqu'à début 2000. Ouais. Maintenant c'est quelque chose, maintenant tout le monde joue d'une façon ou d'une autre, y compris les gens qui jouent à Candy Crush sur leur téléphone mobile. Donc voilà, c'est devenu une pratique qui s'est vraiment démocratisée et c'est, si vous voulez, on peut plus se permettre de, je pense, de parler de jeux vidéo dans une optique uniquement orienté jeux vidéo, parce que c'est forcément une optique de test produit. Alors le test produit a une part dans notre métier, évidemment, on juge la qualité d'un jeu, mais c'est important, je pense, d'avoir d'autres références et d'avoir des gens qui viennent d'autres, qui sont capables de faire des passerelles avec d'autres formes.
Revenons à la question qui nous intéresse. Le jeu vidéo est-il moral? D'emblée, Ambroise Garel, vous m'avez dit, moi, j'aime pas cette question.
C'est pas que je l'aime pas. C'est que je pense que, plus que la question elle-même, c'est le fait qu'on pose la question qui est intéressant. Parce qu'on se pose pas la question de savoir, enfin, on se pose plus la question, peut-être depuis 1900, faudrait demander au moment du procès Flaubert, de savoir si la littérature est morale. On se pose pas la question de savoir si le cinéma est moral. On se pose la question de savoir si certaines œuvres sont morales. Par exemple, on peut penser que Saw est un film très violent, que Baise-moi de Virginie Despentes est un film ou un livre qui est violent, on peut en débattre, mais on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire que la littérature ou le cinéma sont amoraux. Alors que pour le jeu vidéo, on se pose la question. Et ça, il y a de nombreuses causes à ça, on va peut-être pas en revenir, mais je pense qu'il y a une raison historique, simplement que le jeu vidéo, à l'origine, était vendu comme un produit pour enfants. Et d'ailleurs au tout début, quand il n'y avait pas encore de réseau de distribution spécialisé, c'était vendu dans les boutiques de jouets, les consoles étaient vendues dans des boutiques de jouets, les jeux aussi, et du coup il y a eu cette idée d'un produit vraiment pour enfants. Et comme la protection de l'enfance est une question, on va dire, très sensible aujourd'hui. Et c'est tout, d'ailleurs, tous les mouvements qui ont des velléités un peu de censure, choses comme ça, s'appuient beaucoup sur la protection de l'enfance. L'argument, c'est toujours, il faut protéger les enfants. Eh bien, il y a eu cette question qui s'est posée au niveau de la moralité du jeu vidéo, parce qu'on disait, le cinéma, ça s'adresse à tout le monde. On peut montrer des choses horribles dans un film ou dans un livre, mais
avec des législations
évidemment. Il y a des cas extrêmes comme l'incitation à la haine raciale, on ne sait rien, mais ce sont quand même des législations très particulières. Alors que dans un produit qui est considéré comme destiné aux enfants, forcément la violence choque beaucoup plus.
Ouais, mais dans les jeux vidéo, il y a une législation. On va reparler des moins de 18 ans, moins de 16 ans, etc. Mais sinon, là, il y a une législation qui dit ce jeu incite à la haine raciale, il est interdit, il ne sera pas vendu.
La haine raciale, c'est très particulier. Il y a des jeux qui incitent à la haine raciale, il y en a pas. Enfin, il y a peut-être des choses développées par.
Ils ne sont pas commercialisés. Les jeux vidéo qui sont fondés sur des défis violents, ce sont ceux qui se vendent le mieux à l'heure actuelle ou pas?
Ce sont...
On va être honnête, les jeux vidéo, parmi ceux qui se vendent le mieux, tout comme les films qui font un carton au cinéma, si on parle des films de super-héros qu'on a pu voir, Avengers, Gardiens de la Galaxie, sont des films qui, sous couvert de s'adresser à un public familial, sont d'une extrême violence.
Ouais. Mmh.
Donc les jeux vidéo de guerre, oui, se vendent extrêmement bien. On précise quand même que sur le podium, ils sont vraiment à égalité avec les jeux de football.
En fait, ça correspond à peu près à ce qui plaît. Enfin, ce qui est populaire, en fait. Les films d'action sont populaires, les jeux d'action le sont, le football est populaire, les jeux de foot le sont.
Alors, ceci dit, les jeux vidéo sont très critiqués pour leur violence. Call of Duty, on peut peut-être dire un mot là-dessus, donc des jeux qui permettent d'incarner un soldat dans un environnement hyper réaliste.
Hein. Oui.
C'est la technologie aussi qui permet cet hyper réalisme, très critiqué pour la violence de certaines scènes.
Mais c'est le culte
attaque
du
de civils, scènes d'attentat dans le métro, combat dans Paris, chaque nouvel épisode de la série a droit à sa scène polémique, médiatique. Donc, autant de pubs gratuites pour le jeu.
Voilà, il y a deux choses. Effectivement, une scène polémique, comme par exemple celle où on était, donc c'était il y a quelques années. Donc, dans Call of Duty, on incarne des héros de guerre américains
ou
pas.
Donc, vous y jouez.
Moi, je ne suis pas une grande fan de Call of Duty, mais oui, j'y ai un peu joué avec mon époux, je dois avouer. On a fait les Black Ops.
C'est ça, et vous êtes mère de famille, c'est ça qui est amusant.
On joue en équipe, en couple, et on se dispute pas mal. Donc, on incarne un soldat d'élite, et il y avait cet épisode dans lequel, à un moment, on est sous couverture, on accompagne des terroristes qui se mettent à tirer sur tout le monde dans un aéroport. Et cette scène dure quelques minutes, mais elle avait choqué absolument tout le monde, même les journalistes qui l'avaient découvert, puisqu'on avait le choix de tirer ou pas sur les civils. Alors, depuis, c'est devenu une tradition.
Et alors, c'est-à-dire quoi? Il vaut mieux décider de tirer sur les civils pour gagner?
Les développeurs n'ont pas du tout. Pas du tout dans cette scène-là. C'était vraiment... les développeurs ont argué que c'était effectivement dans le but de mettre les joueurs dans une situation qui serait désagréable. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'ils se sont pas dit tout simplement on va choquer tout le monde? En tout cas, ça n'influait pas sur le résultat du jeu. C'était vraiment pour comprendre peut-être l'horreur de cette action-là. Ouais. Alors après, il y a autre chose qui est quand même important à savoir, c'est que le jeu vidéo, après avoir été un loisir pour les enfants, taxé de jeu. Depuis une dizaine d'années, il court après une chimère qu'on appelle l'âge adulte. Le jeu vidéo...
Ce que vous êtes.
Tout à fait. Le jeu vidéo ne veut plus être considéré comme un loisir enfantin.
Par exemple, GTA, troisième version du jeu, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire, 45 millions de ventes. Donc voilà, on ne parle pas quand même d'une histoire anecdotique.
Ah oui, non, c'est personne n'a dit que le jeu vidéo était
là aussi GTA très très critiqué, c'est l'histoire quoi.
Mais mal compris.
C'est un gangster qui grimpe dans les échelons de la mafia locale, c'est
alors,
ça.
Alors ça dépend. Enfin le postulat de base de GTA depuis les tout premiers, il faut voir un peu l'histoire du GTA, c'est-à-dire que le premier, c'était un jeu vraiment vu de dessus qui était un jeu d'action très très simpliste. En gros, le principe, d'où le nom GTA Grand Theft Auto, donc c'est vol de voiture, ça consistait en gros, et je résume à peine, c'était voler des voitures, écraser des gens et tirer sur des piétons ou des concurrents mafieux.
Voilà.
Donc c'est une chose d'extrêmement simpliste.
On devient un gars très sympathique.
Très sympathique, voilà. Mais c'était vraiment un défouloir complètement idiot. Et ce qui est intéressant dans la série GTA, c'est de voir comment elle a évolué d'épisode en épisode et qu'elle est devenue peu à peu, en partant d'un jeu vraiment complètement stupide. Stupide, pas, c'était péjoratif dans ma bouche, mais un jeu qui n'avait vraiment aucune prétention, à devenir un des jeux les mieux écrits, quand même, parce qu'il faut le dire. Alors, c'est d'accord, on incarne un personnage pas sympathique, mais bon, les personnages du parrain sont pas non plus des gens très sympathiques, mais néanmoins, il se trouve que le
quand
jeu...
Quand vous dites le mieux écrit, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les personnages étaient extrêmement bien écrits. Je pense par exemple au quatrième épisode, qui était, donc, c'est quelque chose qui est très récurrent chez Rockstar, donc l'entreprise qui développe le jeu. On jouait un immigré venu d'un pays d'Europe de l'Est, donc pas trop, c'est pas précisé, mais on suppose qu'il vient, il est serbe, et il arrive donc à Liberty City, qui est une l'équivalent de New York, et le jeu entier va être une réflexion sur qu'est-ce que c'est que devenir américain, le rêve américain. On voit tous les personnages qui arrivent, qui deviennent complètement fous à courir après cette chimère de l'intégration, et puis aussi
donc un scénario très bien pensé.
Un scénario très bien pensé, et ce qui est intéressant,
très
justement,
référencé.
Très référencé, et le personnage, justement, c'est très intéressant de voir que c'est vrai que l'interactivité permet des choses intéressantes aussi, c'est qu'on se rend compte que son destin va lui échapper, et que c'est quelqu'un qui arrive à animer des meilleures intentions, en disant « la violence est derrière moi », et par les situations dans lesquelles il se retrouve, va être amené à commettre des actes abominables, plus ou moins indépendamment de sa volonté. Quoi. Et à la fin, d'ailleurs, il va tout perdre.
Et d'ailleurs, quand vous dites très référencé, il faut généralement avoir fait des études hein, pour être un bon concepteur, un bon développeur de jeux vidéo.
Oui, alors non seulement
il faut... sur l'aspect création de l'histoire, oui. Des personnages, etc.
Oui, tout à fait.
Vous nous appelez, les voisins et les voisines, 33 1 84 22 71, si vous souhaitez participer aux discussions. Dans quelques instants, on est en ligne avec Souleymane, qui nous appelle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Souleymane, 40 ans, docker, soyez le bienvenu Souleymane. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? J'imagine que oui, si vous nous appelez.
Oui, je joue aux jeux vidéo depuis un bon moment. Hein, depuis
ouais. À quoi vous jouez?
Bon, les jeux de football, des jeux d'aventure, de combat et autres.
Hein. Et est-ce que vous avez faible justement pour les jeux qui sont plutôt guerriers, violents?
Non, pas forcément.
Alors, comment vous vous situez par rapport à notre sujet de discussion? Le jeu vidéo est-il moral?
Bon, pour moi, le jeu vidéo, le moral, ça dépend de personnes, hein. Ça dépend des personnes, surtout pour les enfants. Moi, je conseillerais plutôt des jeux éducatifs où il n'y a aucune trace de violence pour les enfants, pour ne pas qu'il y ait des impacts sur leur scolarité et puis sur leur comportement de tous les jours. Bon, quant à moi, l'adulte, moi, je joue au jeu à un moment, bon, il n'y a aucun impact sur ma vie, hein, puisque après le jeu, on dépose la console et puis bon, on a notre réalité de tous les jours. On a notre boulot, on a notre famille, on a notre réalité.
Ouais. Est-ce que c'est si facile que ça, justement, comme vous dites, on dépose la console?
Bon, pour moi personnellement, c'est facile, puisque je me dis que le jeu vidéo, c'est de la fiction. C'est juste une distraction, on se retrouve entre amis, entre collègues pour passer du temps. Et puis bon, après il faut retenir la réalité, hein. Il ne faut pas rester enfermé dans son monde de jeux virtuels et autres, là, c'est pas ça.
Pourquoi?
Bon, parce que moi, je pense que il ne faudrait pas que ça ait des impacts. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent passer de la vie du jeu à qui veut transposer dans leur réalité de tous les jours. Ça, c'est très dangereux.
Vous avez des amis autour de vous qui sont plus ou moins dans cette situation-là, Souleymane?
Oui, j'ai des amis qui sont dans ma situation et j'ai même qui sont très, très, très accro. Très accro au jeu et finalement, c'est pas... On ne finit pas de leur donner des conseils. Vraiment, c'est dur pour eux, mais on fait avec.
Alors, il y a pas mal de messages hein, sur Facebook. Merci, Souleymane, qui disent quand même, effectivement, la valeur. Vous parliez de défouloir, Ambroise Garel, d'exutoire. Voilà, finalement, ça aiderait à supporter la société d'aujourd'hui, fondée sur le contrôle, sur le politiquement correct.
Hein. Alors, c'est pas une question de politiquement correct. Alors, après, il y a le problème de catharsis, mimésis. C'est toujours le problème. Est-ce que ça défoule les gens de voir des choses violentes? Est-ce qu'ils vont vouloir les reproduire? Mais au-delà de ça, je pense que c'est intéressant. Enfin, faut voir ça aussi comme plus que des questions d'art ou de fiction, simplement comme une pratique. Je pense à ça par exemple par rapport au sport. Le sport est une pratique sociale codifiée. Par exemple, on accepte que des gens s'énervent tant qu'ils se tapent pas dessus. On accepte que des gens s'énervent dans les gradins d'un stade de foot parce que c'est considéré comme une pratique normale. Voilà, c'est une sorte de défouloir, un moment où les gens peuvent tous ensemble crier, un peu s'énerver. Si quelqu'un fait la même chose devant sa console de jeu, on va dire mais le jeu le rend malade. Regardez-le, il est en train de hurler et de balancer son pad, sa manette à l'aide devant l'écran, mais alors que non, c'est simplement...
Mais vous jouez depuis l'enfance, tous les deux, vous êtes des trentenaires, vous diriez que les jeux sont plus violents qu'il y a 10 ans, 15 ans?
Non.
Et ils ne sont pas plus violents dans le fond? Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure.
On va voir alors en deuxième partie, juste après le flash, hein, dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins avec des gamers dans le studio aujourd'hui, puisqu'on pose cette question, le jeu vidéo est-il moral? Pia Jacquemart, journaliste spécialisée dans les jeux vidéo, donc vous êtes une journaliste femme, et puis Ambroise Garel, alias Louis-Ferdinand Sebom, de Canard PC, un magazine indépendant de complètement spécialisé dans les jeux vidéo. Pia, je vous posais la question juste avant le flash, est-ce que les jeux vidéo, parce que vous jouez depuis plus de 20 ans tous les deux, depuis votre tendre enfance, est-ce que les jeux sont plus violents aujourd'hui? Est-ce que c'est la technologie qui le permet? On était interrompu par le flash sur cette question intéressante.
Alors donc les jeux ne sont pas plus violents qu'avant dans le fond, c'est la forme qui est plus violente, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus réalistes qu'avant. Il y a 20 ans, quand on tirait sur un personnage, on voyait 3-4 carrés à l'écran qui s'effondraient au sol. Aujourd'hui, si on décide de tirer sur quelqu'un, on va vraiment voir la souffrance sur son visage, il va s'effondrer, on va voir le sang.
Donc ça, c'est le progrès technologique, Ambroise
Garel. C'est le progrès technologique, il y a aussi, c'est vrai que les développeurs en jouent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est capable de le faire qu'on doit le faire. Alors
tout
on peut
fait.
Maintenant montrer des choses, on peut montrer le regard terrifié de quelqu'un en train de mourir, parce qu'on a la capacité de le montrer visuellement, on n'est pas non plus obligé de le faire. Il se trouve que beaucoup de développeurs le font parce que c'est un argument de vente, il faut le reconnaître.
Il y a quand même aussi une escalade, je pense à ce jeu qui n'est pas encore sorti, mais je crois que vous en avez vu des extraits, vous avez le droit de voir des extraits, vous, en tant que journaliste spécialisé.
Oh, les extraits sont disponibles.
Edge Red, oui, c'est disponible aussi sur Internet. De quoi s'agit-il?
Alors, Edge Red, c'est un jeu très très particulier, qui a suscité une grosse polémique. En fait, c'est un jeu dans lequel on incarne un personnage, dont on ne sait pas grand-chose, qui un jour décide de sortir de chez lui, armé jusqu'aux dents, et de, ben, pour le dire clairement, de faire un carton, de tuer le maximum de gens, et apparemment, on ne sait pas encore tout sur le jeu, mais le but serait de tuer et le plus de gens possible avant de se faire abattre par la police. Donc forcément, surtout aux États-Unis où ils ont des problèmes de tireurs fous assez fréquemment,
ça rappelle des faits divers.
Mais après, il faut voir que bon, là c'est un jeu qui
joue. Ces gens-là d'ailleurs qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo, notamment dans certains.
Non, pas de rapport.
Le problème c'est que c'est des gens qui ont beaucoup respiré d'oxygène aussi.
C'est-à-dire que
tout le monde joue aux jeux vidéo, on peut pas vraiment établir un lien de causalité.
Et les psychologues s'entendent pour dire qu'il y a pas de rapport entre la pratique du jeu vidéo et la violence.
Ça dépend des psys. En tout cas, les plus critiques disent c'est épouvantable. Et les moins critiques disent en tout cas c'est chronophage de toute façon, donc c'est pas bon.
N'importe quelle activité est chronophage. Je dirais que pour travailler avec une psychologue clinicienne qui s'appelle Vanessa Lalo, qui est spécialisée notamment sur les questions de dépendance aux jeux vidéo, la dépendance aux jeux vidéo ne conduit pas à la violence, ça c'est les études l'ont prouvé. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que une personne qui va prendre les armes et tuer les gens aura joué aux jeux vidéo, mais ce sera plus symptomatique de sa génération ou peut-être du fait que ses parents l'auront délaissé.
C'est ça. Non, mais bien évidemment, tous les gens qui jouent aux jeux vidéo ne deviennent pas
et
violents.
Et l'inverse n'est pas vrai non plus. Andrei Breivik, le tueur fou de Norvège.
En Finlande, Norvège.
Il avait un compte World of Warcraft et tous les journalistes se sont précipités sur cette information disant il jouait à World of Warcraft. On s'est rendu compte qu'en réalité, il faisait semblant de jouer à World of Warcraft, le jeu l'intéressait pas du tout, il faisait croire qu'il jouait parce qu'en fait il était très occupé sur d'autres types de sites internet.
Puis, quand bien même il jouait à World of Warcraft, donc World of Warcraft précisait que c'est quand même un jeu où on incarne un personnage dans un monde médiéval fantastique, autant on peut dans un jeu de tir où on abat des gens gratuitement, on peut éventuellement se poser la question d'une relation, mais enfin là ce serait vraiment...
Dans World of Warcraft on peut même mettre un panda.
Au sujet, le jeu vidéo est-il moral? Il y a des jeux qui n'ont, il n'y a pas spécialement de violence au sens propre, je pense au jeu Papers, Please, est un jeu qui pousse très loin la question morale ou l'immoralité, la morale.
Papers, Please, justement, c'est un jeu, alors là, c'est presque un jeu extrêmement intéressant, parce que là, on est tout à fait à l'inverse de la violence gratuite, comme argument de vente. Là, c'est un jeu dans lequel on incarne un douanier d'une république post-soviétique qui vient d'ouvrir ses frontières. Enfin, les ouvrir à moitié, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent rentrer, pas d'autres. Et le rôle du joueur, qui joue ses douaniers, c'est de vérifier si les papiers des gens qui rentrent sont en règle. Et donc, il est forcément confronté à des cas de conscience en permanence, parce qu'il peut se retrouver, par exemple, face à une famille où une personne peut rentrer et pas l'autre. Donc, est-ce qu'il sépare la famille? En même temps, lui peut se permettre de tricher et de laisser rentrer des gens qui n'auraient pas le droit de rentrer normalement, mais il peut mettre du coup sa propre famille en danger, parce que si les autorités s'aperçoivent de ses magouilles, ben il peut avoir des problèmes.
Et pour gagner, il faut avoir quelle attitude?
Ben justement, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est que le joueur est toujours dans une situation, il n'y a pas vraiment de... On est dans une sorte de tension permanente.
On ne gagne pas vraiment.
On ne gagne pas vraiment. Ça, c'est un jeu qui est très intéressant.
Il n'y a pas réellement un dénouement.
Il
n'y
a pas un côté
clair.
Prescriptif. Il faut faire ça. Donc, il faut être très gentil et laisser rentrer tout le monde. Ou au contraire, il faut faire obéir au dictateur. Non, non. C'est, ça met le joueur face à une situation insoluble. Et ça, c'est très intéressant.
Alors, je voudrais quand même vous signaler l'inquiétude de quelques-uns des internautes qui postent des messages. Une voisine, Gloria, qui habite à Antisrabé, à Madagascar, nous dit ici, les jeux vidéo se trouvent dans presque chaque maison. Personnellement, je ne suis pas contre. Sauf que la plupart des jeux qui sortent ne sont pas fait pour les enfants, et que ce sont pourtant eux qui y jouent. Même analyse de Ray au Cameroun. Quand vous avez des enfants qui se retrouvent en train de jouer aux jeux interdits au moins de 18 ans, là, je pense que c'est problématique. Ou encore, Claude, 31 ans, Cotonou, Bénin. Alors lui, c'est un gestionnaire d'une salle de jeu. Dans ma salle, les consoles de jeu sont à disposition moyennement un paiement à l'heure. Les jeux vidéo distraient les enfants, développent leurs capacités, nous dit Claude. Ils n'ont pas le droit de jouer à tous les jeux quand ils viennent dans ma boutique. Les parents me font confiance d'ailleurs. Ils me demandent quels jeux peuvent convenir à leurs enfants. Je les conseille. Et quant aux adultes, ils sont responsables, pense Claude. Ils sont capables de distinguer le bien du mal, le virtuel du réel. Donc, ils peuvent jouer à ce qu'ils veulent. Et malgré tout, je me limite dans les jeux mis à disposition. Chez moi, il n'y a pas de jeux de guerre réaliste comme Call of Duty. Et de toute façon, personne ne me les réclame. Voilà.
De toute façon, se posera toujours la question de la responsabilité des parents. On n'emmène pas ses enfants pour voir un film d'horreur avec un tueur en série qui tue des jeunes filles quand il a 8 ans. De la même façon, on ne lui met pas entre les mains un jeu vidéo violent. Donc pour vos auditeurs qui s'en inquiètent, à ce moment-là...
Ça suppose qu'on connaisse bien le jeu.
Il y a une signalisation qui a été mise en place en Europe, en tout cas avec le PEGI.
Vous êtes bien placé. C'est votre métier. Donc, voilà, tout vous surveillez les jeux auxquels jouent vos enfants, j'imagine.
Alors, ils sont jeunes, ils sont tout petits. Mais effectivement, comme le dit Ambroise, il existe une signalétique, on appelle le PEGI, donc ça c'est pour les territoires européens.
Il y a le SRB aux États-Unis. C'est mis en place à la fin des années 90.
Mais honnêtement, c'est assez facile à voir.
C'est le Pan-European Game Information. C'est ça. C'est
voilà,
ça,
vous avez sur la couverture du jeu un gros chiffre qui correspond à l'âge recommandé.
Il y a des jeux qui sont déconseillés au moins de 16 ans en France et interdits au moins de 18 ans au Royaume-Uni.
Mais ça, c'est comme pour les films. Enfin, d'un pays à l'autre.
Même en Allemagne,
par exemple,
ils sont
pour les
sévères.
Films.
Ceci dit, la réalité en France, c'est que plus de 80% des collégiens en France ont déjà joué à un jeu déconseillé au moins de 18 ans.
Mais ça, c'est les parents.
Combien ont déjà vu un film d'horreur interdit au moins de 16 ans à 12 ans, quoi.
Et des films pornographiques.
Ça, c'est
sûr. D'accord. Donc, vous avez réponse à tout.
C'est...
Alors, ceci dit, je voudrais qu'on accueille, au téléphone. On est en ligne avec Oscar Gilbert, qui est PDG du studio de jeux vidéo Dantnod. Est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous, Oscar Gilbert?
Oui, bonjour. Je suis en ligne avec vous.
Voilà. Vous venez de sortir, votre cas est intéressant, votre studio est intéressant, parce que vous venez de sortir il y a un mois un jeu vidéo qui s'appelle Life is Strange, avec une héroïne.
Oui, il s'agit d'une jeune étudiante en photographie qui vit sur la côte ouest américaine et qui apprend la photographie et qui à un moment donné découvre qu'elle a un pouvoir un peu spécial et elle peut remonter dans le temps.
Oui, il y a d'autres jeux quand même dans l'univers des jeux vidéo qui mettent en scène des femmes.
Oui, il y en a. Il y a un jeu très célèbre qui s'appelle Tomb Raider avec Lara Croft, qui d'ailleurs est faite par le même éditeur, donc qui nous édite nous Square Enix.
Et la féminité incarnée, en tout cas pour beaucoup aussi, hein, une espèce de plastique comme ça, c'est incroyable.
Elle a beaucoup évolué, Lara Croft, le personnage.
C'est la James Bond femme finalement.
C'était une James Bond femme qui s'est transformée à la fille, à the girl next door, comme on dit en anglais.
Ouais, la fille à la portée de tous ou presque. Ouais.
Elle a quand même beaucoup évolué avec le temps. Elle s'est adaptée.
Mais pourquoi vous avez eu envie de créer un jeu vidéo avec une héroïne?
Alors nous, on fait pas de militantisme particulier. On est très 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 conscient de la cause des femmes, mais on fait pas ça pour ça. Nous, si on a choisi un personnage féminin, c'est parce que on avait une histoire à raconter et il nous paraissait beaucoup plus adapté de la raconter à travers un personnage d'une jeune femme qui avec sa sensibilité, tout ce que ce jeu véhiculait passait très bien par ce personnage-là. On peut faire d'autres jeux avec dans d'autres univers où on va plutôt choisir des personnages masculins. C'est pas voilà. Mais ce jeu-là.
Donc sous-entendu, ce que je décode dans ce que vous dites, c'est que vous aviez envie d'un jeu un peu plus subtil.
Non, moi je pense que les hommes peuvent être tout aussi subtils que les femmes. Il y a pas de, moi je fais pas du tout de différence. Je pense que c'est des questions qu'on se pose parce que voilà, parce que le jeu est un média très jeune, le jeu vidéo est un média jeune et c'est des questions qu'on se poserait plus du tout dans le cinéma, par exemple.
Mmh. Vous avez eu du mal à trouver un éditeur ?
Alors oui, oui, effectivement, il y a. On a eu du mal jusqu'à ce qu'on tombe sur Square Enix qui voilà pour qui ça n'a posé absolument aucun problème.
Mais sous-entendu quoi ? Ça posait quoi comme problème aux autres éditeurs ?
Il y a une idée dans les équipes marketing de vente de certains éditeurs qui est que les personnages féminins principaux dans un jeu vidéo, ça fait des jeux qui ne se vendent pas. Parce que le jeu vidéo est un produit qui est plutôt destiné aux hommes qu'aux femmes.
Attendez, c'est l'idée ou ce sont les résultats commerciaux ?
C'est un peu. Moi, je dirais que c'est une.
Pour moi, c'est un serpent qui se mord la queue.
Alors, attendez, laissons aussi la parole à nos invités dans le studio, mais vous restez bien sûr en ligne avec nous, Scar Gilbert.
Pour moi, c'est le serpent qui se mord la queue, ça.
Ambroise Garel.
C'est-à-dire que comme les éditeurs sont persuadés que s'ils font un personnage principal femme ou même un personnage principal noir, par exemple, ça se vendra moins bien, ils le font pas, ou quand ils le font, les jeux sont pas aussi poussés au niveau marketing, donc forcément, ils se vendent moins.
Donc, vous voyez bien que les jeux vidéo sont racistes et sexistes.
Le problème est quand même un peu plus complexe, mais voilà, c'est un peu la poule et l'œuf, quoi.
Ouais. Pierre Jacquemart,
on a eu des exemples de jeux vidéo avec des héroïnes qui, effectivement, c'est exactement ce que dit Louis Ferdinand, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins, malheureusement, en l'occurrence, ils sont beaucoup moins vendus. Tous les éditeurs le savent pour des raisons qui sont que ils ne les poussent pas de la même façon. Oscar, avec Dontnod, vous êtes célèbre parce que vous avez fait un premier jeu vidéo qui s'appelait Remember Me, dans lequel on jouait déjà une femme en héroïne et qui était un joli jeu. Et qui avait pas forcément connu le succès.
Mais vous voyez que vous êtes politiquement correct, alors Oscar Gilbert, finalement.
Qu'il aurait dû rencontrer.
C'est la pire critique qu'on puisse adresser à un créateur de jeux vidéo, non, d'être politiquement correct.
Non, c'est pas une critique.
Non, on n'est pas plus politiquement correct. C'est pas du tout. On recherche pas du tout ça. Vraiment, c'est des histoires qu'on a envie de raconter des histoires.
Mais alors, voilà. Ça se vend ou pas, ça? Vous avez lancé le jeu il y a un mois?
Pardon ?
Vous avez lancé ce jeu Life is Strange avec une héroïne, donc étudiante en photographie, il y a un mois. Ça se vend ou pas, Oscar Gilbert ?
Ça se vend très bien.
Ah, super.
Très bien. Donc on va
moi,
faire
j'ai adoré.
Mieux que prévu ou pas ?
Voilà, tous les pronostics des départements marketing, ça se vend très très bien.
Moi, super. Moi, je suis contente, j'aime beaucoup le jeu. J'ai discuté avec Michel Corr chez vous il y a quelques semaines. Et je trouve que, pour une fois, le fait que ce soit une héroïne n'est pas utilisé justement comme un prétexte. C'est pas une héroïne sexy, c'est pas un jeu vidéo qui s'adresse justement à ce qu'on appelle les hardcore gamers. Et je pense que vous avez
c'est-à-dire
vraiment
les
gros joueurs masculins, 15-30 ans. Mais pourtant, ils accrochent autant. Ouais, voilà. Et ça parle à tout le monde. Et voilà.
Tout le monde aime ce jeu. Moi, là, je rentre de la GDC, de la conférence des développeurs de jeux vidéo à San Francisco.
Qui est vraiment, alors là, la mecque du jeu vidéo.
Et tous les professionnels nous ont félicités. Donc, ça fait vraiment très plaisir. Alors que ce sont des gens qui, en général, aiment les jeux, comme on dit, hardcore, classiques. Mais ce jeu...
C'est quoi un jeu hardcore classique ? Alors, le ressort.
Non, mais on va dire les jeux les plus vendus, c'est Call of Duty, c'est FIFA,
c'est ça, des jeux violents.
GTA, c'est ce type de jeu-là, quoi. Voilà.
Je voudrais qu'on aborde quand même la question du sexisme dans les jeux vidéo. Il y a eu le fameux Gamergate, c'est-à-dire le scandale de l'été dernier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Ambroise Garel?
Alors, résumer le Gamergate, c'est toujours un exercice compliqué parce que c'est très complexe.
Ça reste actualité confidentielle.
Si on doit le résumer en peu de temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet été, il y a eu une développeuse indépendante très peu connue à l'époque, qui s'appelait Zoe Quinn, qui donc
une américaine, qui a
couché avec un journaliste d'un site.
T'exagères, tu devrais pas. Alors je suis pas du tout d'accord. On n'explique pas le Gamergate comme
ça. Si, parce que attends, je porte aucun jugement là.
Tu donnes cette information pour commencer. Non, l'ex de cette fille fâchée Et c'est, la Gamergate a commencé comme ça. Un jour, sur Internet, l'ex d'une développeuse américaine, qui était fâchée après elle, probablement parce que c'était son ex, ou en tout cas pour des raisons qui les regardent,
une histoire banale de rupture,
a balancé sur Internet des informations intimes sur ce que cette fille avait pu faire et avec qui. Il se trouve que parmi ses amants, il y avait eu un journaliste d'un site internet de jeux vidéo connu, et à ce moment-là, une bande de
ah bah c'était la déferlante d'internautes
sexistes en colère se sont imaginés qu'elle avait eu un traitement de faveur dans la promotion de ses jeux.
Alors, menace de mort, menace de viol...
Ce qui en plus s'est révélé totalement faux, parce que le journaliste en question n'a jamais écrit un mot sur le jeu de The Queen.
Tout à fait.
Il y a une
menace de mort, harcèlement sur Internet.
Voilà. Mais c'est révélateur de quoi, ça, quand même?
Bon, alors il faut savoir que le Gamergate, c'est quand même un phénomène très américain. Je vais pas dire que les Français sont moins sexistes.
On a l'impression qu'il n'y a pas de frontières dans cet univers-là.
Si, il y en a.
Il y a des frontières, culturelles, simplement. C'est vrai que le rapport que les Européens ont à ces histoires-là n'est pas le même que celui que les Américains ont, par exemple.
On n'a pas d'extrémisme comme ça en France. Oui. Ça, c'est un fait. Aux États-Unis, c'est très prégnant, parce que, il y a une culture de la violence qui est bien plus prégnant qu'en France. Il faut savoir qu'aux États-Unis, elle n'est pas la première à avoir été menacée de mort dans le milieu du jeu vidéo. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Anita Sarkisian qui publie des petites vidéos sur les
qui est une blogueuse, une blogueuse féministe.
Voilà, tout à fait, qui publie des vidéos dans lesquelles elle explique quels sont les clichés. Alors elle va expliquer que la princesse Peach, c'est une princesse en détresse, qu'il faut toujours la sauver et que c'est pas bon pour l'image des femmes. Et ben, suite à ces vidéos-là, effectivement, elle a elle aussi été menacée de mort. Il y a même eu des menaces d'attentat.
Pour avoir défendu la fameuse Zoe Quinn,
notamment. Et il y a eu des menaces d'attentat qui ont été proférées à l'encontre d'une université où elle devait prendre la parole.
Non mais ça va quand même très loin.
Ça va
mais
loin.
On parle de jeux vidéo.
Oui, mais c'est au-delà
de
la culture.
Non,
c'est au-delà de la culture jeux vidéo. C'est-à-dire, ça concerne le jeu vidéo bien évidemment, mais c'est au-delà, c'est une sorte de culture internet assez particulière autour de certains sites comme 4chan, 8chan, Reddit, qui sont des sites qui ont quand même un public assez particulier, généralement extrêmement masculin et qui
tous geeks,
beaucoup majoritairement geeks, on va dire.
Donc,
c'est un peu caricatural. Alors, parce que faut pas non plus en faire une caricature en disant que c'est uniquement des frustrés. Ce serait uniquement des frustrés, des gens. Ce serait pas très grave parce qu'ils sont peu nombreux. Mais c'est au-delà de ça. Il y a vraiment quelque chose de structurel là-dedans. Il y a quelque chose d'identitaire.
Oscar Gilbert, la France a quand même. Alors vous êtes un studio, le studio de jeux vidéo Dontnod. C'est un studio français. La France a un vrai savoir-faire tout de même avec des studios de développeurs qui sont reconnus dans le monde entier aujourd'hui.
Oui, la France a un vrai savoir-faire. Moi, juste pour en revenir, effectivement, au sexisme dans le jeu vidéo, je pense que cette industrie, elle est en train de se féminiser.
Dans votre studio, il y a des femmes qui créent.
Si on revient à la GDC San Francisco, qui est vraiment la mecque des développeurs de jeux, il y avait quasiment aucune femme encore il y a une dizaine d'années, alors qu'aujourd'hui on va vraiment ce salon se féminiser et donc je pense que les contenus produits, tous les jeux qui vont être produits dans les prochaines années vont avancer dans ce sens et je pense que
ça va faire évoluer les histoires, les scénarios des jeux ou pas.
Voilà, ça va faire évoluer les histoires, les scénarios et donc forcément le public auquel le jeu s'adresse aujourd'hui, qui est encore majoritairement masculin mais qui je pense est en train de d'évoluer petit à petit et j'espère de plus en plus vite. Donc ça c'est, je pense que c'est quelque chose de très important, quelque chose de nouveau. C'est un peu comme le cinéma qui a eu sa période on va dire muette expérimentale etc et qui est petit à petit en train de devenir un média de masse où on se pose plus du tout la question est-ce que le personnage principal est féminin, masculin, enfin c'est des choses roman, enfin je veux dire c'est des questions qui se posent plus du tout aujourd'hui.
J'espère
que le jeu va aller vers ça aussi.
Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter aussi, je pose la question à Ambroise Garel peut-être et à Pia Jacquemart, au-delà de la violence, du sexisme, de l'aspect aussi propagande politique, même si ça reste quand même des phénomènes très minoritaires. Je pense à des jeux, il y a un jeu, je crois que c'est quoi, c'est Battlefield avec un soldat américain dans un environnement très, bon, très violent, très, très réaliste. C'est quoi, c'est GI contre méchants étrangers,
etc. Il y a beaucoup de jeux qui ont des scénarios avec américains contre soldats étrangers. Alors il y a des cas particuliers, par exemple des jeux qui sont vraiment des jeux de propagande. Par exemple America's Army, qui est un jeu qui a été produit par l'armée américaine, qui là pour le coup, enfin c'est un dérivé en fait d'un logiciel que les soldats américains utilisaient pour s'entraîner, et ils ont
c'est
fait
un jeu assez vieux en plus, qui date de 2002.
C'est assez vieux, c'est pas un jeu, c'est pas un succès phénoménal.
Et à la fin, dans le jeu, il y a quoi? Il y a un appel à l'engagement dans l'armée américaine en disant venez, c'est encore mieux que le jeu.
Je crois qu'il y a des références, je me souviens plus exactement, mais il me semble qu'on peut, il y a des liens vers les sites de l'armée américaine, ou pour s'informer, et dans un premier temps, éventuellement pour s'engager. Mais là, ce sont vraiment des jeux de propagande. Mais ça reste quand même...
Ça pose quand même des questions...
C'est aussi un problème qu'il y a dans le cinéma. Hein. C'est-à-dire qu'on sait, il y a eu des documentaires sortis là-dessus, justement, sur le fait que le Pentagone a un gros, gros contrôle sur le film de guerre et ne prête ses équipements qu'à certaines conditions. Enfin, le jeu vidéo, c'est comme toutes les formes d'expression, c'est aussi un produit de son temps, quoi. Et il y a un fantasme dans l'imaginaire américain du gentil soldat qui défend face à un méchant étranger. Ça se retrouve dans la création. American Sniper au cinéma, c'est la même chose, quoi.
Il n'y a pas beaucoup de contre-culture.
Dans le jeu vidéo, si, il y en a. Il y en a beaucoup. Le jeu vidéo indépendant est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de petits jeux.
Mais qui racontent quelles histoires, alors, dans ces cas-là, en termes de contre-culture?
Alors, qui peut raconter tout. Alors, c'est des contre-cultures. Enfin, alors, il y a des jeux vraiment avec un message anti-guerre, par exemple. Il y en a assez peu. On peut prendre je sais plus comment il s'appelle.
C'est ça. Il y en a assez peu.
Il y a September 12 qui est un jeu dans lequel on contrôle un drone et on doit balancer des missiles pour tuer des terroristes dans un petit village. Sauf qu'on se rend compte que il y a une sorte de délai, ce qui fait que c'est très difficile de viser les gens. Et à chaque fois qu'on tue un civil, ça génère plus de terroristes. Et on se rend compte que c'est impossible de gagner. Donc voilà. Plus on tire, plus on crée terroristes, et donc c'est une propagande au sens neutre du terme, hein, sans jugement de valeur, anti-drone, contre la politique américaine et l'usage des drones. Donc voilà, mais ça c'est assez minoritaire. Par contre, quand je parle d'une contre-culture, c'est que le jeu vidéo, faut pas réduire le jeu vidéo à ces jeux de propagande patriotique, comme il faut pas réduire le cinéma American Sniper.
Mmh. Oscar Gilbert.
Oui, je pense qu'il y a une vraie scène aujourd'hui du jeu indépendant, comme on voit dans le cinéma, les films indépendants, tels que par exemple, aux États-Unis, nous avons le blockbuster, mais d'un autre côté, nous avons tout le...
Alors, blockbuster, c'est vraiment la grosse cavalerie avec un énorme budget, etc.
Voilà, et à côté de ça, on a tout le cinéma indépendant américain avec le festival de Sundance, avec aussi tout ce qui se fait au niveau des séries télé, etc. Donc vraiment, je pense qu'il y a de la place pour les deux choses. Dans le jeu vidéo, il y a aussi un certain nombre de jeux qui se posent la question de la guerre. Je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle The War of Mine, qui explique une survie dans une ville détruite, assez compliquée, où on montre un petit peu l'horreur de la guerre. On fait vraiment sentir aux joueurs ce que ça signifie. Donc il y a tout un... Je pense qu'il y a vraiment une partie du jeu aujourd'hui, de la création indépendante, qui véhicule d'autres messages, qui raconte d'autres histoires.
Vous êtes au courant d'un jeu, Ambroise Garel, qui permet d'incarner les forces de Daesh et qui est accusé d'être un outil de recrutement pour l'État islamique?
Alors ça, je le connaissais pas.
Dont on va pas donner le nom.
Ça, je savais pas. Je sais qu'il y a eu des jeux, justement, en réaction aux jeux de propagande direct ou indirect américains, qui ont été créés. Par exemple, je sais que l'Iran a créé des jeux qui tournaient en dérision l'armée américaine, ou des jeux dans lesquels on se battait contre l'armée américaine. Mais celui de Daesh, je le connaissais pas.
On parle aussi de courant homophobe parfois dans les jeux vidéo.
Bah, tout comme on parle de courant homophobe, malheureusement, dans nombre de sociétés occidentales ou autres. Hein.
C'est vraiment lié au problème du sexisme.
C'est vraiment, oui, et c'est vraiment lié à une uniformité. Surtout, je dirais, pour le moment, les jeux vidéo sont encore majoritairement créés par des jeunes hommes blancs, classe moyenne. À destination de leur moi adolescent. C'est la même chose pour les comics, donc les bandes dessinées américaines. C'est la même chose pour beaucoup de films de super-héros, mais pas que. C'est la même chose pour énormément de supports comme ça. Ça va changer. Pour le moment,
ça
change déjà un petit peu. Il y a des jeux vidéo aujourd'hui qui sont créés quand même par des jeunes hommes américains blancs trentenaires où on peut choisir de vivre une romance homosexuelle. Je pense à Dragon Age qui est sorti en 2005-2006.
Oui, oui.
Mais alors, on pouvait se marier, pas se marier, on pouvait coucher.
Mass Effect, Skyrim, enfin il y a beaucoup de jeux qui maintenant ça se banalise.
Mais la question, le jeu vidéo.
Ce qui peut aussi être une facilité.
Le jeu vidéo.
Est-il en termes de scénario?
Oui, tout à fait.
On arrive au terme de cette émission. À la question, le jeu vidéo est-il moral? Vous disiez dès le début, Ambroise Garel, mais de toute façon, on ne poserait pas la question pour la littérature ou pour le cinéma. Donc, le jeu vidéo doit être exemple de ce type de questionnement. Et en même
temps. Fait questionner le contenu d'un jeu.
Oui, c'est
il faut
ça.
Le faire même.
Mais alors finalement, c'est nos limites.
Ah, nos limites, bah, les limites de la loi, tout simplement. Comme un livre. Un livre, on n'a pas le droit d'appeler au meurtre, on n'a pas le droit de diffamer. Enfin, les lois générales s'appliquent aux jeux vidéo aussi.
En fait, oui. En même temps, on sait très bien que dans le domaine de l'internet, etc., c'est plus compliqué que ça.
Mais oui et non. Il faut pas prendre des adolescents pour des imbéciles.
Et puis, on
ne
peut pas avoir l'idée d'internet comme un endroit sans loi non plus. Enfin,
Malheureusement, d'ailleurs. Oui. Ou pas. C'est l'on a d'un point de vue.
Oui, voilà.
Non, vraiment, très honnêtement, pour conclure, il faut vraiment pas sous-estimer, les gens qui jouent aux jeux vidéo et les adolescents. On est tous, sauf problème psychologique grave, on est tous capables de faire la différence entre un film, un livre, un jeu vidéo et la réalité. Donc à partir du moment où on considérera le jeu vidéo comme une plateforme de création, la question de savoir si le jeu vidéo est-il moral ne se posera plus. Je voudrais juste faire un parallèle avec le manga dans les années 90 qui avait été pointé du doigt et qui était le sujet d'un livre de Ségolène Royal sur les bébés zappeurs. Aujourd'hui, plus personne ne remet en question le caractère artistique de ce que font Hayao Miyazaki ou certains grands créateurs de mangas.
Il y a eu ça pour toutes les cultures populaires. Il y a eu ça pour la BD, pour le rock, pour le jazz. Dès qu'une nouvelle forme de création culturelle apparaît, il y a une peur.
Oui, il sera inscrit au cursus classique de toutes les écoles.
Merci à tous les trois. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Oscar Guilbert, donc le PDG du studio de jeux vidéo Dantnod. Merci à vous, Pierre-Jacques Mar, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo. Et Ambroise Garel, alias Louis-Ferdinand Sebom de Canard PC. Merci à vous, les voisins, pour vos interventions, surtout via message écrit. Émission largement conçue par Jonas Malé-Solars, passionné de jeux vidéo. Cécile Lavoie, Volo, Romain Dubrac, Didier Chéroux également dans l'équipe. Pour toutes vos réactions, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr et continuer à poster Twitter, Facebook. Demain, 7 milliards de voisins, nous plongerons dans l'univers des entreprises sud-coréennes. Cadence infernale, ancien dirigeant cadre français raconte ses 10 ans d'expérience.